plusieurs années, malheureusement pas du tout aidé par la Fédération française de football. Qu'en est-il en ce qui concerne la Lyonnaise des Eaux?
Oui, moi je pense qu'il manque un peu de visibilité, aussi bien au niveau national avec le changement de formule du championnat national, mais même régionalement. On avait mis l'idée, fut une époque, de faire une journée entreprise avec toutes les finales de coupe. C'est tombé à l'eau, mais ça pouvait être quelque chose qui pouvait intéresser d'autres entreprises pour faire venir du monde un peu aussi.
C'est clair, c'est clair.
Voilà. C'est vrai qu'il manque de la visibilité, ça c'est évident.
C'est clair, parce que quand on voit une finale de la Coupe d'Aquitaine qui se joue sur un terrain annexe comme la saison dernière, je crois que c'était à la Brède, ouais. Alors qu'à une époque, elle jouait, moi j'ai souvenir, la première, celle qu'on avait gagnée à Jetmont, on avait joué en fin de journée sur le terrain d'honneur, il y avait je sais pas combien, un millier de spectateurs, c'est quand même plus plaisant que de jouer sur un terrain annexe devant 100 spectateurs, quoi. Et c'est vrai que les instances ont négligé cette discipline qui a quand même été porteur, qui actuellement est quand même porteuse de plus de 20 000 licenciés en France.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que la visibilité, aussi. Il faut quand même un peu de propagande, un peu de visibilité.
C'est porteur de job, quoi, aussi.
Et
c'est,
oui,
c'est
aussi.
Très important, quoi.
Ça peut être porteur. Ça peut être, le football peut permettre, disons, d'avoir sa chance au niveau professionnel.
Bien sûr. Ce qui nous concerne, nous
aussi. Après, dans le football entreprise, ça va être beaucoup plus simple, en tout cas, peut-être que dans
plus
les
simple,
clubs.
Et voilà, pas si simple que ça.
Oui,
mais bon,
t'as plus de rentrées, en tout cas, que
c'est
dans
clair,
certains clubs.
C'est
voilà,
clair.
On va pas se mentir.
Bon, Alex, c'est de quoi il peut parler, puisque de par sa profession, il est vraiment, lui, dans le milieu, justement, dans ce milieu professionnel.
D'accord. Voilà, tout à fait.
Voilà. Le championnat des H, là, il a l'air vraiment coupé en deux, là, sur quatre équipes, là. Le titre va se jouer entre la CQCAF, le CHR, le Conseil Général et la Lyonnaise des Eaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là, parce que j'ai l'impression qu'après du cinquième au dernier, ça a l'air un peu plus faible.
Ouais, on dirait que ça va se jouer là, oui, entre ces clubs là. Voilà.
D'accord.
Après, il y a beaucoup de matchs en retard, il y a beaucoup de choses.
Ouais.
Donc les choses
c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais par rapport aux années précédentes, le championnat est largement plus ouvert là.
Cette année, il est un petit peu plus ouvert.
Plus resserré.
Voilà, c'est un peu plus resserré, puisque cette année, il y a le Conseil Général qui vient se mêler à la lutte. Sinon, bon, malheureusement, je dis bien malheureusement, depuis de nombreuses années, bon, bah, c'est toujours le triumvirat lyonnais, CQCAF, CHR, quoi. Voilà.
Après, ce qui est bien, c'est que cette année, de nouvelles entreprises sont arrivées, Banque Populaire,
oui.
Ça donne un petit souffle de plus, un petit souffle nouveau. On est 11 dans la poule, il y a un peu plus de compétition. Voilà, je trouve que c'est un peu plus dynamique le championnat.
Oui, c'est clair.
Non, c'est quand même pas mal. Parce que tout à l'heure, nous, c'est vrai qu'on se posait la question, on parlait plus du CHR aussi avec JC, bon, en plus, qui sont en championnat de France. Mais on se disait à JC, est-ce que c'est le CHR qui a une moins bonne équipe peut-être, ou est dans une période de transition, ou en tout cas, où c'est les autres équipes qui se sont largement mieux renforcées que les années précédentes?
Bon, après, je pense aussi qu'il y a des cycles, hein. Il y a des cycles, il y a des changements de joueurs, bon, ça bouge dans les clubs.
D'accord. Et comment on fait au niveau de la Lyonnaise des Eaux pour recruter des joueurs?
Comment on fait? Je dirais, bon, c'est souvent par connaissance.
Bien sûr.
Ça peut être professionnellement, par la mise en place de parcours professionnels, à la Lyonnaise ou en dehors de la Lyonnaise, hein, puisque la conjoncture est difficile aussi. Voilà, on essaie un peu de partir dans ce secteur-là, voilà. En faisant comme ça.
D'accord. Au vu des matchs en retard, Alex, parce que bon, en fin de compte, nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas encore joué une seule fois contre la CQCAF, on ne vous a rencontré qu'une fois. Samedi, là, qui vient, on va jouer le match retour du Conseil Général. Nous, en fin de compte, pour la période à venir, on ne va jouer que du lourd.
Ouais. chacun son tour.
il va regarder ça attentivement.
Voilà, chacun son tour. Non, mais le championnat est loin d'être fini. Là, on arrive dans des terrains difficiles, tout est possible, entre guillemets. Voilà, encore. Hein.
C'est clair, oui, j'ai appris hier soir, j'ai vu Christian qui me disait que le terrain Caprou était malheureusement...
il est difficile, on essaie de le protéger au maximum parce que ça a un coût, l'entretien des terrains ont un coût énorme aussi, les budgets sont plutôt à la baisse, donc c'est vrai que le terrain, c'est une priorité, il faut l'entretenir, le protéger, voilà. Après, c'est vrai que le championnat a démarré tard, donc dès qu'il y a des journées comme ça d'intempéries, etc., la problématique va se poser pour rejouer tous ces matchs.
C'est clair. Alors pourquoi, il faut donner une explication, pourquoi le championnat a commencé tard. Bon, bah, les équipes telles que Lyonnaise, Sécu, Conseil Général, nous, ont souhaité reprendre beaucoup plus tôt. Mais bon, il y a des petites équipes qui ont accédé.
Ils sont fait aussi pour faire
beaucoup, malheureusement, il y a toujours, notamment où il y a beaucoup de joueurs d'origine lusitanienne. On sait que les vacances au Portugal, c'est au mois d'août. Donc, mais pendant les vacances au mois d'août, il n'y a pas d'entraînement. Et il est évident que ces équipes ont des difficultés à démarrer très vite en septembre un championnat, ce qui crée ce problème de décalage qu'on a actuellement. Et puis aussi, ce qui n'aide pas, et là Alex va être certainement en totale phase avec moi, c'est que l'absence totale d'aide de la Fédé, la suppression de l'équipe nationale aussi, parce qu'il y avait des très bons joueurs qui étaient enclins à venir jouer en foot entreprise, avec la possibilité bien sûr d'intégrer cette équipe de France.
Oui, tout à fait, et puis de faire plusieurs matchs au championnat national.
Exactement.
On peut être qualifié et éliminé rapidement maintenant.
C'est clair. Ah ben, maintenant, et une voilà. Saison, le Port du Havre qui a été champion en 2013 a été éliminé dès les 32e de finale la saison suivante.
Et voilà, et là, le champion. Et on ne peut plus faire venir des joueurs intéressés par le championnat national, on ne peut rien promettre.
Exactement, c'est ça le problème.
Est-ce que c'est un regret pour la Lyonnaise des Eaux? J'imagine quand même qu'il y a des ambitions de pas avoir eu la chance d'accéder à ce championnat national cette année.
Oui, c'est un regret. Après, il y a aussi des problèmes budgétaires quand même, parce que malgré tout, tous ces voyages, ça a quand même un coût financier important.
Bien sûr.
C'est un coût financier, les budgets ne sont pas extensibles. On est plutôt dans une période où il faut faire attention.
C'est clair.
Donc, sportivement, c'est regrettable. Après, financièrement, c'est vrai que ça...
C'est autre chose.
Voilà. C'est une charge, quand même, après.
C'est clair.
D'accord.
Ah, ben,
la Fédé rembourse, quand même, au minimum. Hein.
Ah, ben, c'est 2,90€ du kilomètre. Allez.
Voilà, tout à fait.
Bon, par contre, moi, ce que je m'explique pas, c'est pourquoi.
Pas de retour.
Non, c'est pas ça. Voilà,
on va se poser la question.
Et ce que je m'explique difficilement, c'est que, à partir des quarts de finale, ça passe à 3,65€ du kilomètre. Quelle peut être la différence entre les quarts de finale et les phases de poule? Les déplacements sont les mêmes.
Ouais, mais comme les joueurs sont devenus meilleurs, ils ont droit à un peu plus.
Donc. Peut-être qu'il y a moins d'équipes, donc voilà. Il y a peut-être la possibilité de donner un peu plus.
Ah, c'est clair.
Je pense que ça sera plus comme ça, quoi.
Oui, mais en quart de finale, t'as que 4 matchs, donc tu as 4 équipes qui vont se déplacer. Là, regarde, nous, la poule que nous sommes.
Tu l'as dit en quart, mais en 8e, t'en as 8.
Non, mais il y a pas de 8e, on est pas tranquille. Là, par exemple, nous, dans le sud-ouest, on est totalement isolés à Rouen. Budget aller-retour plus de 1 500 km, budget 3 000, pas loin de 4 000 €. Marseille, idem, et Paris, idem. Bon, Paris TGV, les billets sont réservés à l'avance, c'est un petit peu moins cher, mais ces 12 ou 13 000 euros, la fédération n'en rembourse qu'à peine la moitié. Voilà.
Ouais, voilà. Et puis là, ça fait une charge importante quand même. Marseille, c'est très compliqué pour aller à Marseille. Et le coût est élevé.
Ah, ça, c'est clair.
Oui, voilà. Après, les transports. Et puis après, toutes les sociétés, SNCF ou Air France, etc., ça soit des voyages de groupe comme ça pour des associations sportives, il n'y a pas des prix, je dirais, si intéressants que ça non plus.
Ah non, et puis le problème, au contraire, c'est que par avion, ils ont certains... on pourrait faire un aller-retour Bordeaux-Marseille et retour dans la journée. Le problème, c'est que le samedi soir, ils ne veulent pas prendre les groupes.
D'accord. Voilà.
Voilà. Ouais. Donc, soit tu restes à Marseille, ou soit tu fais un Bordeaux-Paris, tu restes à Paris le soir, enfin bref.
Ou alors t'as un président qui a un avion privé. Quoi.
Ah, mais oui, ou alors...
Donc tu t'appelles Nasser.
Voilà.
Ou Nicolas. Peut-être.
Alex, quelque chose à rajouter pendant que
non,
tu es
non,
sur
non,
les
non,
ondes?
Non, mais bon, c'est clair par contre que le manque de visibilité n'aide pas le football d'entreprise.
Ça, c'est clair.
Bah, nous, on est là pour vous aider en tout
cas.
Nous,
on fait ce qu'il faut.
Voilà. On essaye à BDC aussi d'en parler. On est 2-3 radios, on pourra en parler. Voilà, s'ils donnent le fond. Et même Foot 33 aussi écrit quand même des articles.
Oui, aussi.
Petit coucou à Marie-Laure. Donc voilà, on essaye au moins de donner cette visibilité.
Oui, parce que toutes les aides sont bienvenues, parce que c'est vrai que le football peut être un vecteur d'intégration dans les entreprises.
C'est clair. C'est clair. Alex, merci de ton intervention.
De rien, avec plaisir et bonne continuation.
Oui. Bonne fin de saison.
À très bientôt.
Merci. Au revoir.
Tout le monde, ciao. Et on enchaîne les téléphoneurs, hein. On va dire
si tout le monde pouvait avoir ce discours cette fois.
Voilà. Et bien, dès que nous l'aurons, donc nous étions en ligne avec Alex Courreau, président de la Lyonnaise des Eaux,
qui a dit que lui, il pouvait jouer le titre, donc il va le jouer. Peut-être.
Ah mais c'est
donc,
clair.
Donc c'est bien. Et il a raison de le faire.
Ah, mais
parce
non
que,
mais
comme
c'est
dis,
normal.
Ça va mettre un peu de piment dans cette fin de championnat.
Non mais c'est bien. Tant mieux, parce que j'avais l'impression que c'est vrai qu'on comptait beaucoup sur la Lyonnaise des Eaux ces dernières années, mais j'avais plus l'impression que le championnat était coupé entre deux équipes, entre la CQ CAP et le CHR. Et là, il y en a quatre cette année.
Depuis,
il y a même le conseil général qui s'y met. Donc, comme quoi,
on va dire quand même.
Il y a des sous au conseil général, non, quand même.
Jusqu'en 2010.
Je ne crois pas que ce soit aussi simple.
Non, je rigole avec ça.
Jusqu'en 2010, des fois, on était champion à 3 ou 4 journées de la fin.
Là,
il faut reconnaître que depuis la saison 2011, c'est simple. Lorsque la Lyonnaise des Eaux a été championne en 2011, nous avons le même nombre de points. Nous avons un goal average général supérieur. Par contre, comme ça se joue au goal average particulier, la Lyonnaise a été championne pour un but. La saison dernière, nous sommes champions face à la Sécu pour un point. Donc depuis 2011, c'est vraiment très resserré. Bien malin qui pourrait dire aujourd'hui qui va être champion d'Aquitaine. Ah, nous avons Didier. Didier Buzyn.
C'est le président qui va dire qu'il va être champion.
Didier.
Oui.
Oui, bonsoir Didier. Tu vas bien?
Oui, bonsoir. Ça va très bien, oui.
Peut-être as-tu entendu l'intervention d'Alex Courreau?
Non, non, j'ai entendu. J'ai écouté effectivement ce qui a été dit précédemment par mon collègue. Bah, je ne peux qu'aller dans son sens, hein, et dans votre sens. Parce qu'effectivement, on parle d'éclairage au football d'entreprise, des difficultés du football d'entreprise d'exister. C'est clair, je crois que... Alors la solution, je pense qu'elle a été dit par mon collègue précédemment, c'est effectivement avoir un peu plus de lisibilité sur ce que l'on fait au sein de ces clubs, parce que ce que je regrette, c'est qu'on ne considère pas aujourd'hui le football d'entreprise comme du football d'une manière classique, hein, mm-hmm. Et c'est un petit peu dommage, et ça j'en veux un petit peu à nos instances. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le grand coup de pouce qui pourrait être donné au football d'entreprise, comme ils ont pu le faire pour les autres footballs, je parle du football féminin, je parle du beach soccer, je parle du... etc.
Du futsal.
Du football en salle. Ce serait effectivement d'impulser quelque chose au niveau national. Et ce qui n'est pas fait. Donc, à partir du moment où c'est pas fait au niveau fédéral, bien évidemment, c'est pas relayé au niveau des ligues et c'est pas relayé au niveau des districts. Donc à partir de là, on stagne, et à partir du moment où on stagne, on a plutôt tendance à régresser qu'autre chose.
C'est vrai que je vais aller un petit peu dans son sens, parce que même quand tu vas sur FFF, il faut vous trouver dans autre championnat.
Ah oui, non, mais c'est pas évident.
C'est
clair.
C'est clair. On connaître un petit peu, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette visibilité là.
C'est clair.
Ouais, vous avez évoqué l'évolution, à mon avis, pas dans le bon sens, de notre championnat et Coupe de France. Là aussi je pense que c'est une erreur. La suppression de l'équipe de France, c'est là aussi une erreur. Alors on nous a invoqué des problèmes budgétaires, je veux bien, mais il suffirait de prélever quelques pourcentages sur ce qui est donné au niveau des autres équipes de France, et à
c'est
mon
clair.
Avis, on aurait de quoi financer largement une équipe de France d'entreprise, comme il existe l'équipe de France des pompiers, ou de la police, ou de la SNCF, je ne sais quoi. Je crois que là, si véritablement il y avait, une envie politique, entre guillemets, et là, c'est pas de la politique au sens strict du terme, c'est une politique sportive, mais si on voulait effectivement impulser quelque chose, on pouvait le faire. Je crois qu'il n'y a pas cette envie, on le sent bien. Enfin, qui sait qui est dans un petit groupe de réflexion, qui essaie d'impulser quelque chose, il doit connaître mieux que moi les difficultés qu'il doit rencontrer au niveau de la fédération. Et ça, je trouve, c'est regrettable, parce que c'est du football. C'est toujours du football.
Et
il
n'y
a pas à discréditer, il ne faut surtout pas discréditer ce football-là. C'est du football, ce sont des gens qui s'entraînent, qui vont jouer, qui ont peut-être un autre état d'esprit. Mais peu importe, c'est du football, c'est la pratique du football. Et ça, il faudrait que ce soit reconnu d'une autre manière.
Oui, puis quand tu parles d'état d'esprit, on le vit régulièrement, notamment, surtout en compétition nationale, il y a un état d'esprit que je ne vois pas ailleurs. Les réceptions d'après-match, c'est quand en division d'honneur, en CFA2, en CFA, on ne voit pas cet état d'esprit qu'il peut y avoir, la convivialité qu'on trouve dans les réceptions d'après-match. C'est impressionnant. Je vois encore samedi dernier à Marseille, mais on a été reçus de même que nous, lorsque nous recevons, nous mettons les petits plats dans les grands, etc. Et ça, dans l'autre football, puisque je vais appeler ça l'autre football, on ne le trouve pas. Et qui plus est, c'est que le football entreprise n'a pas tous ces problèmes disciplinaires qu'on peut trouver maintenant dans ce qui a été...
Et on l'a vu récemment.
Avec le futsal, et je ne parle pas du foot libre.
Avec certains districts, district Gironde-Atlantique.
Non, mais là, l'amour fraîche est convaincu.
Et oui.
C'est vrai que ça me met en colère. Ça me met en colère parce que j'ai l'impression...
On sent un malaise
qu'on,
sur ça,
qu'on est en train, effectivement, petit à petit... de détruire ce football-là, et je trouve qu'on ne le mérite pas, parce qu'il y a des gens méritants chez nous, il y en a partout dans le
c'est
football,
clair.
Et fort heureusement, mais dans ce football-là, il y en a aussi des gens méritants, et je n'ai pas l'impression qu'on ait cette reconnaissance qui, à mon avis, devrait exister. Quoi.
Et voilà, puis, Président, vous allez me oui. dire si vous êtes d'accord, mais je crois qu'il y a un encadrement qui est de qualité dans le football entreprise, et qu'il y a des joueurs de qualité. Moi, pour avoir évolué dans un club qui est Langon-Castès, où j'ai appris beaucoup de choses sur le football, c'est à l'époque c'était en CFA2, je retrouve dans le foot entreprise, dans certaines équipes, une organisation, une volonté de progresser, et des gestes techniques qui vont dans le même sens, et des joueurs qui ont joué aussi en DH ou dans des niveaux similaires.
Ah non, mais tout à fait, mais écoutez, moi, j'ai vu pas mal de joueurs passer au niveau de la Sécu, et puis c'est des joueurs qui après sont partis pour diverses raisons, mais qui ont rebondi et qui ont évolué toujours à un bon niveau. C'est-à-dire que les joueurs qui sont chez nous, je dis pas tous, mais il y en a quelques-uns qui, effectivement, j'ai des exemples clairs qui se sont retrouvés au Stade Bordelais, qui ont joué en CFA2, en sortant de la CQCAF. Au CHR, c'est exactement la même chose. À Lyonnais, c'est exactement la même chose. Je veux dire qu'effectivement, on retrouve des joueurs de qualité. Et des joueurs, je parlais d'état d'esprit, parce que je connais bien aussi l'autre football. Hein. Très franchement, il y a des moments, je suis bien content d'être revenu exclusivement dans ce football d'entreprise, parce qu'il y a un état d'esprit qui est un petit peu plus famille, que j'aime bien, qui est un petit peu plus convivial, avec des dirigeants qui véritablement se bougent pour continuer à faire vivre ce football. Je dis, c'est là que je suis un petit peu en colère, parce que je pense que cette reconnaissance, elle devrait exister, et j'ai bien peur malheureusement qu'on ne s'en sorte pas. Quoi.
Déjà, le foot entreprise n'est pas pollué, je parle au niveau des joueurs, n'est pas pollué par le fric, déjà.
Oui, parce qu'on le sait, quand on joue à un certain niveau, on va parler de primes de match, on va parler de défraiements. C'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui. On le sait, ça fait partie du fonctionnement du football. Quand on commence à jouer, et même en dessous, mais au niveau de la DHR, au niveau de la DH et au-dessus, c'est évident qu'on parle financier avec les joueurs.
Oh, même des clubs de district.
Et même des clubs en dessous, c'est ce que je disais. Hein. Bon, après, c'est un peu plus clair, je dirais, un peu plus défini d'une manière logique dans les clubs qui évoluent en division d'honneur, par exemple. Hein. Mais ça se passe comme ça. Bon, on le fait pas, on le pratique pas. Mais en tous les cas, si on veut exister à ce niveau-là, il faut en passer par là. C'est maintenant, ça fait partie des choses qui doivent exister dans ces clubs.
Didier, on va reparler.
C'est vrai qu'au niveau des foot d'entreprise, on ne le retrouve pas, ça.
Ouais.
Par contre, on essaye d'aider malgré tout nos joueurs quand ils ont des problèmes d'emploi, quand ils ont des problèmes. Bon, on essaye de les aider les uns les autres. Parce qu'on a quand même quelques réseaux qui permet effectivement de promouvoir certains joueurs. On parlait tout à l'heure, enfin mon collègue de la Lyonnaise en parlait. C'est vrai que on arrive effectivement à rendre service à des joueurs, et on n'est plus sur ces créneaux-là qu'autre chose.
Didier, pour en revenir purement à ton club, la CQCAF, l'équipe première leader en division d'honneur, l'équipe 2, alors là, qui écrase tout, si j'ose dire,
qui est quasiment champion
en excellence. Puisque vous avez 10 points d'avance sur le second avec un match en moins. 13 victoires, 1 nul, 58 buts marqués, 18 encaissés. Et l'équipe C, qui est l'équipe 3, se maintient tranquillement en 6e position.
Qui est en milieu de tableau, qui fait un championnat tout à fait honorable.
Oui,
c'est vrai. On a un club qui est pas mal. On se situe bien. Après, bon, tu parlais de la première place de l'équipe première aujourd'hui. Bon, c'est vrai, je rejoins mon collègue lyonnais en disant que ben, aujourd'hui, il faut attendre que tout le monde ait joué ses matchs en retard.
Oui, bien sûr.
Qu'on se soit rencontrés les uns les autres au moins une fois, de façon à faire un premier bilan. Je crois qu'on pourra le faire, ce premier bilan, fin mars.
Le 21. Mars,
voilà. Voilà, ouais, fin mars, je pense qu'on pourra dire, ben voilà, voilà où on en est, voilà les positions qui sont un petit peu plus consolidées. Aujourd'hui, la place de l'équipe première, elle est anecdotique. Hein. Bon, on verra plus tard. Après, l'équipe 2, ben, c'est vrai, ça tourne bien parce que on a trois groupes qui sont intéressants, avec des joueurs intéressants. Et là aussi, on retrouve cet état d'esprit club qui permet effectivement, quand on leur fixe des objectifs, ben, d'essayer de les atteindre. Je crois que tout le monde, entre guillemets, fait son job. Quoi.
Ouais, et puis tu as des bons coachs. Joël Gourgues, dont on, hein, qui est un garçon absolument charmant, qui connaît très bien le football.
Ah ben, c'est un garçon de la maison, ça c'est clair. Il connaît bien le club déjà. Et ça, c'est important. On se connaît bien, les dirigeants. Il y a une bonne équipe dirigeante. Là aussi, il faut le souligner, on a une très bonne équipe dirigeante avec des mecs qui, véritablement, se défoncent tout à la semaine pour justement encadrer ces équipes. Parce que c'est pas facile. Hein. Même quand on peut pas faire la comparaison avec un club, je dirais, autre que le foot d'entreprise. Mais c'est vrai que lorsqu'on a trois équipes seniors comme la nôtre, j'étais hier soir au match de notre équipe 3, demain soir ce sera le match de l'équipe 2, samedi ce sera le match de l'équipe 1. Bon, toute la semaine on est sur les terrains, quoi. Hein. Alors les entraîneurs y sont, bien évidemment, mais nous aussi on doit y être en tant que dirigeants, de façon effectivement à ce que les garçons sachent qu'ils sont épaulés, qu'ils sont soutenus et qu'ils sont encadrés d'une manière claire.
Ok. Didier, bon. Moi je voulais te poser une petite question, te connaissais très bien, Michel Fuster, connaissant très bien, je sais que tu as baroudé dans pas mal de clubs, à beaucoup de postes importants au niveau national, au niveau régional. Ouais. Quelle différence fais-tu par rapport à ton vécu de responsable, manager ou directeur sportif dans des clubs UPE par rapport à la présidence de la CQCAP?
Ah ben... Écoutez, moi, bon, on peut pas comparer, on peut pas comparer non plus les responsabilités, même si le poste de président aujourd'hui de la CQCAP, c'est quand même un poste à responsabilité, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, on sait très bien que le premier des responsables, ce sera toujours le président. Mais bon, après, j'ai eu d'autres responsabilités, effectivement, dans les clubs plus importants, dans les clubs qui ont joué à un autre niveau. Bon, j'ai toujours trouvé quelque chose d'intéressant, de toute façon, c'était toujours intéressant parce que on vivait le football, quoi. Moi, j'ai toujours vécu le football à travers ces clubs, vécu le football à travers ces responsabilités. Alors, c'est plus ou moins haut dans la hiérarchie du football, mais on y est toujours dans le football. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, que je sois directeur sportif au Stade Bordelais ou que je sois président de la CQCAF, je me sens impliqué de la même façon. Certes, l'implication est moins lourde en termes de charges, d'un côté que de l'autre, mais néanmoins c'est toujours football. Et moi, donc, ça me fait vivre le football et ma passion. À partir de là, je suis bien dans le basket.
Voilà, en deux mots, par rapport à tout ce que tu as apporté, ce que tu apportes au football, parce que bon, tu es un garçon sérieux, tout le monde le reconnaît. T'as moins de pression, si tu veux, le fait d'être à la CQCAF que quand tu étais des...
Ah oui, bah ça, bien sûr.
Voilà. Donc, tu retrouves du plaisir. Là, tu retrouves le vrai plaisir du football. Quoi.
C'est-à-dire que quand on a de grosses responsabilités, à un moment donné, bon, c'est très pesant. C'est très pesant et ça bouffe beaucoup d'énergie parce qu'il faut y être. D'abord, il faut y être tout le temps. Quand il y a des problèmes, c'est toujours vers les personnes les plus haut placées, en quelque sorte, à commencer par, bien sûr, le président, mais bon, j'étais pas loin toujours des présidences. Effectivement, ben, on nous sollicite beaucoup, et puis c'est pas du 24 heures sur 24, mais presque. C'est presque. Alors bon, aujourd'hui, puis je suis d'autant plus, si tu veux, un petit peu, avoir un peu plus de liberté, quoi, puisque je ne travaille plus, puisque je suis retraité maintenant. Donc là aussi, avant, il fallait que je cumule et mon activité professionnelle et l'activité footballistique, bon, qui n'était que du plaisir, hein, qui n'était que effectivement l'engagement volontaire de ma part. Là aujourd'hui, ben, je n'ai plus que maintenant le plaisir à travers ce poste de président de la CPU que j'assume avec, je veux dire, une bande de dirigeants qui sont des gars sympas et des gars dévoués.
Eh bien, écoute, Didier, on te remercie beaucoup de tous ces renseignements, ces enseignements.
On va suivre ça.
Et on suivra tout ça de très près. Sache que
on parle beaucoup de football entreprise, nous.
Voilà, là, aujourd'hui, mais c'était la journée football entreprise, donc c'était bien de s'intéresser
à tout
ce qui se passe à l'intérieur d'un club de football entreprise, parce que bon, c'est vrai qu'on parle toujours des clubs de l'élite régionale ou nationale, etc. Et c'est bien aussi de s'intéresser au plus profond de ces clubs d'entreprise. Et on te remercie beaucoup de ton intervention.
Non, mais c'est moi qui vous remercie, parce que effectivement, grâce à vous, on a un certain éclairage sur ce football, mais je pense que tous les footballs sont méritants, et je pense que des dirigeants qui sont au plus haut placés devraient effectivement s'en rendre compte.
Merci Didier, et merci. Bonne continuation.
Merci Didier, à bientôt, merci, et bonne continuation.
Oui, merci. Allez, au revoir.
Bonne soirée.
Alors, on a fait on a fait largement le tour sur le football entreprise.
Ben oui. Ça va peut-être inciter certaines boîtes à.
Toi, j'ai eu une bonne idée hier.
De toute façon,
je voulais pas trop parler de son CHR. Et bon,
on va en parler
parler quand même.
On a le spécialiste JC de foot entreprise, qu'on en profite.
On peut appeler notre quatrième.
David, quelque chose à rajouter le temps que nous ayons notre autre phoneur.
Je crois que ce que peut-être on a oublié quand on met pas en avant comme ça le foot entreprise, c'est que c'est de la passion, c'est la même quoi. C'est la passion du jeu, c'est les rencontres, le partage, et avec cette pression en moins, ce qui fait que ça fait un football qui est très sympathique à voir et à suivre.
Bah, c'est très bien. La pression peut-être qu'on l'a quand
c'est bien dit. Il y a des fois.
La pression là quand on prend.
C'est bien dit.
Je vais faire sa place de leader.
Juste un truc. Vous parlez de football spécial. Je viens d'avoir un SMS. La semaine prochaine, avec ton accord, Ludo, on aura l'ancien président de la Fédération française de foot fauteuil au téléphone.
Voilà une bonne nouvelle. Tiens, voilà encore un sujet intéressant.
Pas de souci.
Puis petite ouverture.
Moi, ça, au contraire. Voilà. Toi, Alexis, ça sera bien.
Ça sera avec plaisir.
Petite ouverture.
Et puis tu pourras nous parler de ça.
Le foot entreprise laisse pas tout le monde indifférent. Mais nous, on a une expérience à l'Opéra de Bordeaux. C'est avec Faïd Ben Khalfala, que vous avez connu, qui a joué au Girondins de Bordeaux. Qui joue en Australie maintenant et avec pas mal de réussite, et qui est le parrain de notre équipe, et c'est quelqu'un qui est du monde professionnel et qui s'est intéressé, et une gentillesse incroyable.
Ouais.
Voilà. Donc on le salue au passage.
Ouais.
Parrain.
Et bien on a clôturé en tout cas le football entreprise, très très belle page. On va avancer maintenant pour arriver sur le championnat CFA2. Nous avons normalement Cyril Coupi qui est avec nous, le coach de la jeunesse villeneuvaise. Allô Cyril, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonjour.
Content en tout cas de vous avoir parmi nous, depuis le temps qu'on voulait vous avoir. On voulait savoir un petit peu le sentiment un peu sur cette rencontre. Expliquez-nous un petit peu ce match à Aurillac.
Alors le match d'Aurillac, c'est un match qui a été joué sur une troisième date suite à deux reports.
Bien sûr.
Il avait la particularité d'être joué alors que personne ne jouait. Donc c'était pour nous l'occasion de marquer des points par rapport à tout le reste du groupe. Malheureusement, on a pris ce que j'appelle que le simple point du bus, c'est-à-dire qu'on a pris le point de la défaite. Mais sur le contenu, je pense qu'on peut être satisfait, en tout cas envisager la suite de manière intéressante, parce que le contenu était intéressant, parce qu'on se marque quand même le but, c'est un but contre notre camp, et on échoue pour revenir au score sur un pénalty raté. Voilà.
D'accord. Depuis votre prise de fonction de l'équipe première, on voit quand même que y a eu un certain changement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les joueurs, en tout cas, ont eu cette prise de conscience qu'il y a déjà eu deux entraîneurs et que sur une saison, alors qu'on était en CFA avant, là, logiquement, et que l'équipe n'était pas à sa place. Voilà, est-ce que l'équipe a pris vraiment cette prise de conscience?
Tout à fait, je crois que c'est exactement ça. Je pense que c'est une prise de conscience des joueurs, après avoir utilisé deux entraîneurs, après avoir connu une montée en CFA, CFA2, CFA, puis une descente. Ils ont pris conscience sur cette deuxième démission qu'ils avaient une responsabilité à assumer, celle de maintenir l'équipe à ce niveau. Donc je pense que la situation actuelle est passée d'abord par une prise de conscience des joueurs de la réalité des efforts à fournir pour obtenir à nouveau des résultats, ce qui peut-être jusqu'à présent n'était pas concret pour eux.
Bonjour, c'est Alexis. J'ai une question pour vous. Vous qui êtes du club, C'était plus facile pour vous de reprendre les rênes malgré que ça n'allait pas?
Oui, il y a toujours un avantage, bien sûr, qui est lié à la connaissance du club, à travers déjà la structure, à travers l'environnement, les dirigeants, l'encadrement aussi, puisque en étant responsable de la préfo, bon, j'étais amené à communiquer avec les précédents entraîneurs. Donc oui, il y avait un petit avantage qui était de bien connaître le club. Après, j'ai quand même découvert le groupe, puisque c'est un groupe que j'ai pas choisi. Donc il a fallu savoir qui était qui. Il y a des interactions entre les joueurs, il y a des particularités affectives qu'il faut arriver à comprendre, savoir comment fonctionnent les adultes, même si ce sont de jeunes adultes, parce que l'équipe est assez jeune. Mais c'est en tout cas un avantage, oui, effectivement, d'avoir eu une solution interne, je pense.
Et je sais pas si je dis une bêtise, vous allez peut-être me couper, mais c'est peut-être la deuxième fois que vous les avez, puisque quand Philippe Oyer est parti, c'est vous qui avez eu la charge pendant, je crois, une journée ou deux de prendre l'équipe première, c'est ça?
Oui, effectivement. J'ai fait un intérim très court à la veille du match d'Aurillac, justement. C'était le match aller.
D'accord.
Où on m'a demandé le jeudi soir, je crois, de prendre l'équipe. Donc j'ai fait une séance le vendredi et on a joué Aurillac le lendemain pour une défaite 1-0, où le match justement avait été complètement différent de ce qu'on a pu produire à Aurillac, c'est-à-dire que là on a eu j'avais une équipe qui était complètement dépassée par l'événement, incapable de jouer ensemble. Et puis ensuite j'ai accompagné rapidement Jean-Christophe Ourcade dans ses premiers pas vers le groupe, puis il a été suffisamment grand pour prendre le relais autonome.
Vous avez quand même un super bilan, hein. On va rappeler quand même que quand vous avez pris donc l'équipe, je crois qu'elle était à 12 matchs, oui, c'est ça, 12 matchs, elle était à 16 points. Là, vous êtes quand même, après 17 matchs, vous êtes à 33 points, vous avez pris le double, même le plus du double. C'est quand même 17 points sur 24 matchs. C'est quand même un bon bilan. Et ça donne
24 points.
Sur 24 points, et c'est un bon bilan, et ça donne de l'espoir, en tout cas, pour la suite.
Oui, effectivement, c'est un bilan qui est très intéressant pour démarrer l'année, déjà, parce qu'il y a une forme de rupture aussi qui était liée à la trêve. Mm-hmm. Donc ça a été intéressant pour les joueurs, dans la prise de conscience qu'on évoquait tout à l'heure. Ils ont pu reprendre de la fraîcheur, réfléchir et repartir avec un peu plus de force. Après, je sais que le football est fragile, que l'équilibre d'une équipe l'est aussi, et qu'on fera le bilan le 23 mai. Hein. Mais en tout cas, on va pas bouder notre plaisir d'avoir pris des points, d'avoir réalisé un parcours intéressant en cette première partie d'année. Maintenant, il reste 9 matchs. C'est pas que le plus dur commence, mais on arrive dans la dernière ligne droite où on va jouer des prétendants directs au maintien, déjà samedi Agde, et puis ils vont s'enchaîner des matchs qu'il va falloir assumer.
Oui, là, bonsoir. Vous allez enchaîner en recevant Agde samedi, et ensuite vous déplacez Angoulême, des équipes qui sont Agde un point devant, Angoulême 4 points devant. Ce serait un très très bon coup d'engranger 2 victoires sur ces 2 matchs.
Oui, on est sur une forme de nécessité. Il n'y a pas d'urgence, hein, parce qu'il faut garder la tête sur les épaules et pas se mettre une pression qui allait en tirer tous nos moyens. Mais il y a nécessité, effectivement, d'être dans une logique de résultat rapidement. Donc on l'a fait jusqu'à présent. Les 2 matchs qui viennent, qui vont permettre d'enchaîner 2 fois, ça c'est intéressant aussi de pouvoir enchaîner avant une courte pause. Il y a effectivement... sur un concurrent direct comme Agde, qu'on ne va pas retrouver ensuite, la nécessité de prendre des points et pour leur passer devant et pour pouvoir bénéficier d'une situation favorable. Et puis pour ce qui est d'Angoulême, c'est une équipe qui a bien démarré, qui s'est un petit peu relâchée. Alors je ne connais pas exactement les motifs, mais il y a 2 parties dans ce championnat. Hein. Il y a une partie qui regarde vers le haut, nous on regarde plutôt vers un objectif de maintien. Donc effectivement, ils sont à la limite de cette partie haute. Donc à nous de faire le nécessaire pour gagner du terrain sur un maximum d'équipes.
Monsieur Goupy, quel a été votre discours, en tout cas aux joueurs, quand vous êtes arrivé quand même? Parce que j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous avez pu dire aux joueurs, en tout cas.
Oh, il a été très simple. Déjà, il a été nécessaire de faire appel à leur responsabilité. Je leur ai dit tout simplement qu'ils étaient responsables, de ce qui se passait et de ce qui allait se passer, mais qui n'était pas coupable. Donc, par contre, il allait falloir arriver à mobiliser les ressources nécessaires pour inverser la vapeur, pour retrouver une dynamique collective. Et là, on repart sur des bases qui sont celles du football, c'est-à-dire je leur demandais d'être sans état d'âme. Ils avaient beaucoup discuté, ils avaient beaucoup échangé entre eux, avec les entraîneurs, ils avaient essayé beaucoup de systèmes de jeu. Donc là, on essayait de reprendre un petit peu le socle. Et le socle, c'est le joueur au service de l'équipe, quel que soit son poste, quel que soit son rôle, quel que soit son temps de jeu. Voilà, je demandais à tout le monde de se consacrer au projet, qui est clairement le maintien. Et de faire en sorte que tout le monde adhère à ce projet commun. Voilà. Qu'on oublie les états d'âme, qu'on oublie le projet individuel, et que maintenant, le salut passait par une démarche vraiment collective, le don de soi, la détermination pour renverser la vapeur.
D'accord.
C'est pas plus compliqué que ça.
Bon, et quand même, il y a quelque chose qui doit aussi un petit peu sauver cette situation, c'est quand même, j'ai l'impression, et vu de l'extérieur, que c'est quand même un groupe de copains, et on sait que voilà, là aussi, heureusement que les joueurs s'entendent bien entre eux, parce que sinon on sait que ça serait très très compliqué quand même cette fin de saison.
Oui, effectivement, le fait qu'ils aient partagé des aventures fortes dans une dynamique positive, ça permet de favoriser la réussite. Après, ce côté copain, il peut avoir une limite aussi, parce qu'on sait très bien que les groupes ont des cycles.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'ils sont en fin de cycle, on fera le bilan en fin de saison, mais en tout cas, quand jusqu'à présent, moi j'ai pas constaté de défaillance dans l'investissement lors des séances ou lors des matchs. J'ai l'impression que tout le monde tire dans le même sens. Donc ça c'est une satisfaction. Et effectivement, le fait d'avoir fait deux montées successives et une descente, ça laisse des traces. Et je pense que c'est de l'expérience qu'ils peuvent mettre en œuvre pour obtenir le maintien.
D'accord.
Michel. Ben écoute, Cyril, c'est Michel Fuster. Bon, moi je vais te tutoyer à l'inverse des autres. Bon, moi je te connais très bien et je m'aperçois que tu es toujours aussi sérieux et rigoureux comme du temps que je t'ai connu en tant que joueur. Et je souhaite pour toi que ça continue, que ça aille très bien, parce que je sais que tu en es capable de remonter ce club au niveau où il était. Voilà.
Ben je te remercie
Et puis j'aurai l'occasion de passer à Villeneuve très bientôt pour te venir te saluer. Avec plaisir.
Ben, je te remercie. En tout cas, on accueille tout le monde, tous les supporters, pour aider ce groupe à trouver autour de lui toutes les ressources possibles, hein, que ce soit dans les tribunes, au bord du terrain. On a besoin de tout le monde pour arriver à ce projet de maintien.
Et on y croit tous, de toute façon.
Oui. Et samedi va être une soirée particulière, puisque donc c'est la réception d'Agde. Mais samedi, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui se rende au stade à La Roche, puisque le club a été récemment durement touché par la perte d'une petite fille qui s'appelait Manon, dont son joueur, voilà, dont le frère Rémi joue en U17, donc à Villeneuve. Et samedi soir, tout le monde doit se mobiliser pour faire de ce match un moment particulier. Une tombola et plusieurs animations sont prévues pour récolter des fonds au profit de l'association Princesse Manon. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos dans un document, ou sinon vous appelez Christelle Laborde, présidente de l'association, au 06 20 48 00 03, je répète, 06 20 48 00 03, et donc tous ensemble pour aider Manon. C'est une intention très louable, et que dire de plus.
Voilà, mais je pense que tu as tout dit, et c'est bien de l'avoir passé le
allez Villeneuve.
Voilà. Bon, monsieur Coupi, en tout cas,
Cyril, écoute, on te dit merci d'avoir participé à ce petit intermède.
Et on espère qu'il prendra les 4 points contre Arcachon, qui sont très importants pour lui et même pour Arcachon.
Je ne me fais pas de soucis. Je ne fais pas de soucis pour Cyril, que je connais très bien. On a passé des moments extraordinaires ensemble, et je sais qu'avec son sérieux, il le prouve déjà, et ça continuera comme ça.
Il a été en tant que joueur très bon, et je pense qu'en tant que manager, c'est très prometteur.
On en a bien entendu parler, même avant de l'avoir au téléphone. C'est que même du côté du Bec,
Du Bec,
tout le monde le connaît.
Il
il a quand même une bonne carte de visite. Voilà, donc, il a commencé au Bec. Il va
et vous savez ce qu'ils disent au Bec ?
Il a joué aux Girondins, puisque moi je l'avais récupéré à Chambéry. Il sortait des Girondins. J'ai passé des années formidables avec lui, en tant que non seulement joueur, mais il était responsable. Il était responsable avec ses copains. C'était un meneur de vestiaire extraordinaire. Et je ne suis pas surpris que ce soit un excellent coach et entraîneur.
Simplement pour terminer, sur le site du Bec, que je vous encourage tous à aller voir, c'est marqué en gros « Hommage à notre Cyril Coupi international ».
Voilà, au moins comme ça, monsieur Coupi, vous ne serez pas venu pour rien.
Voilà. On vous envoie les meilleures ondes.
Hein. On te remercie beaucoup.
Je remercie votre soutien. Moi, je ne joue plus maintenant. J'espère que les joueurs vont bénéficier de toutes ces ondes positives et pouvoir les retranscrire par un gros match samedi et un résultat favorable au bout.
C'est tout ce qu'on vous souhaite à tous. Oui. Et puis on tâchera d'être là.
Ça va arriver, on y croit. Nous.
Simplement, ça se dit peut-être pas, mais merde à Villeneuve.
Ok, je tiens compte.
Salut Cyril. Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Bonne soirée, merci.
Bon, mais voilà. C'est bien parce que c'est vrai que tout le monde nous en parle. Et Michel, je savais pas que, tu vois, ça c'est bien.
Cyril, si je citais tous les noms des joueurs que j'ai eus, qui ont fait des carrières, notamment Olivier Fravaud, que j'ai eu à Chambéry, qui est parti après à Libourne en 3e division, qui était capitaine.
Et qui a été international, qui a joué en équipe de France entreprise.
Et c'est un garçon, parce qu'il m'a marqué. Bon, après, je vais en citer d'autres, comme Boisnard, comme les frères Lagrange. Bon, c'est des garçons avec qui j'ai partagé d'énormes moments. Et Olivier, même à cette époque-là, je parle de Vabron, je l'avais même, puisque j'étais très branché avec le président de Cannes, qui était en première division à cette époque-là, qui m'avait demandé de le faire venir pour faire un essai de 8 ou 10 jours. Mais comme il était étudiant, sa fiancée faisait du handball, etc., il était chez ses parents, il n'a pas osé franchir le pas, mais il a fait une carrière professionnelle à l'inverse de ce qu'on voit.
Et en plus,
un garçon charmant. Bon, c'est tous les garçons comme Cyril, comme Olivier, comme Patrick Boisnard, et je vais vous en citer d'autres, mais bon.
Et je fais une précision. Mm-hmm. La CQCAF, en 2005, avec Olivier Favreau, a fait le doublé Coupe Championnat d'Aquitaine de foot entreprise.
Bon, le football me fait pas rêver spécialement, mais eux, leur personnalité m'a fait rêver.
Et puis c'est la grandeur de la personnalité qui amène la réussite. Parce que c'est pas le tout d'avoir un bagage technique, il y a aussi l'intelligence, savoir travailler collectivement.
Déjà, je remercie, je vous ai coupé, c'est pas bien, mais Anthony Touboul,
Grégory,
qui est l'animateur de l'autre émission de football à BDC One, nous a envoyé tout simplement victoire de Marseille à Balma, donc 2-1. Donc Marseille, dernier club qualifié en tant qu'Andorre-Mardella. Donc il reste que des clubs de Ligue 2 ou de Ligue 1, au moins comme ça c'est réglé.
En professionnel,
on remercie monsieur Touboul de l'information, comme ça on peut la diffuser.
C'est super, merci Anto en tout cas. Voilà. Et puis on va passer.
On va passer
par la CFA, parce que la CFA, il y a un gros leader.
Le stade bordelais.
Et il y a un grand match ce soir.
On va déjà parler de Pau qui a gagné quand même 3-1 à Vitré. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit que Fred Parisot, dans l'autre radio, donc à BDC, avait dit que pour lui, Vitré était la meilleure équipe qu'il avait rencontrée. Et bien en tout cas, Pau est parti s'imposer à Vitré, et en plus ça fait les affaires de tout le monde en tête, donc tant mieux. Donc belle victoire de Pau. Pour les victoires qui nous intéressent, c'est la réserve en tout cas de la réserve des Girondins qui a perdu 2-1 face à Concarneau. Ouais. Concarneau toujours qualifié en Coupe de France quand même, dernière équipe de CFA. Ce n'est pas rien, elle est troisième du championnat avec deux matchs en moins sur le stade bordelais, ils sont à 3 points. Donc ils peuvent jouer la montée, mais nous on espère que ça soit Trissac au stade bordelais. Et puis le stade bordelais, on en parle, victoire 1-0 à Limoges, encore une fois but à la 70e de Charlie Dutournier. C'est quand même pas mal, je l'ai vu le but après un coup franc, une tête. Franchement, le stade bordelais, ils sont en grande pompe. Donc, on espère que ce soit le stade ou Trélissac. Et comme je disais à Cyril Coupi hier, on espère aussi que tous les clubs de CFA 2 se maintiennent. Et qu'il y en ait comme ça que l'Aquitaine.
Pour le football aquitain.
Non, mais ça serait énorme quand CFA, on a un club qui arrive au moins montant national. Et CFA 2, un autre club, qu'on soit Bayonne, Lège, Anglette, on s'en fout. Là, je le dis, que ça soit un club d'Aquitaine. Mais que ça soit gagnant, qu'on soit gagnant, et surtout qu'on ait aucune descente, quoi.
C'est clair.
Donc, à la limite, moi, comme je disais, c'est que Arcachon, tout le monde dit, c'est peut-être mort, mais Arcachon peut finir 12e, et être repêché, comme ça a été le cas pour Bayonne, comme ça a été le cas pour d'autres
se
équipes avant,
jusqu'au bout.
Comme ça a été le cas pour Mont-de-Marsan en CFA pendant deux années d'affilée, et là Mont-de-Marsan fait une super saison.
Donc et n'oublions pas qu'il y a un facteur très important qui va rentrer en ligne de compte pendant la trêve, c'est la DNCG, voilà. La Direction Nationale de Contrôle et de Gestion.
Tout à l'heure, tu me parlais de la SCAN, la SCAN, on a fait les frais, ils sont descendus voilà, de l'IH. Donc, alors que les dernières, ils jouaient les premiers rôles en CFA.
C'est vrai.
Donc voilà, et en tout cas pour ce qui nous donne au classement de ces équipes, bon, le Stade Bordelais est premier avec 55 points et 20 matchs joués. La deuxième équipe, c'est Trélissac, hein, qui a 18 matchs joués, ouais. 53 points et 4-2 points aussi. Donc il y a quelque chose à faire. Et Trélissac donc, joue aujourd'hui face à Saint-Malo qui est 11e du classement. Donc ça serait bien en tout cas que Trélissac gagne, comme ça Saint-Malo reste à cette place et ça bouge pas pour nos équipes d'Aquitaine. Et voilà, on va espérer grandement en tout cas que voilà que cette fin de saison en Aquitaine ça nous fasse du bien. En attendant, on va passer vite fait par l'agenda parce que là on a largement le temps et il faut savoir que les matchs en retard d'il y a deux semaines, il faut qu'ils se jouent absolument ce week-end. Si les équipes qui reçoivent logiquement ne peuvent pas recevoir, le match est tourné. Il faut que les matchs se jouent absolument. Voilà, il y a trop de matchs en retard.
Obligatoirement.
Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça a été confirmé par JC tout à l'heure. J'ai eu l'information hier.
Et je pense que c'est très bien comme ça parce que souvent pour le moindre truc, parce qu'il leur manque deux ou trois joueurs, les arrêtés municipales, on ne peut pas jouer, bien etc. Sûr. Ça arrangeait tout le monde. Parce que maintenant, les matchs, il faut que se jouent. Tu ne peux pas recevoir, tu joues chez l'adversaire.
Bon, alors, juste pour une petite chose, hein, les gens ont vite le temps d'aller à Trélissac puisque le match est à
19h. Voilà, c'est parfait. Alors, donc, toutes les informations possibles.
Allez, 1h15 devant vous.
Bon, en attendant, en première série, il y aura des matchs. J'y sais, c'est la seule feuille que j'ai tirée. C'est vrai que tu devais voir. Et Ivan nous l'a trouvé de suite. Je vais passer d'abord par l'APL. Tu nous donneras les matchs de première série juste après.
La première série, on y est dans 2 secondes.
Hein, voilà, comme ça, le temps que Michel et David soient en train de papoter. Alain, l'agenda. Alors, les matchs un peu décalés, déséquilibrés. Les Portugais vont recevoir le Hayon. Par contre, très bizarre, le CS portugais va jouer à 13h. Saint-Aubin recevra Codéran. Le Bousca, l'équipe 2, recevra donc la réserve d'Ezine. L'équipe réserve de Cestas va recevoir Senon, l'équipe réserve également. La réserve du Taillan va recevoir Carbon Blanc. Et le BAC recevra le BEC 2. Ce sont plein de matchs déséquilibrés, mais qui vont avoir une incidence très importante sur le placement. Alors pourquoi le match portugais le Hayon à 13h, je sais pas. Alors ils vont peut-être jouer en levée de rideau d'une des équipes de Villeneuve. C'est pas impossible.
C'est fort possible. Bon, en tout cas, on va passer par l'APL en poule A. Il y aura deux matchs. Notamment un très important pour Mako qui est 9e, qui jouera au dernier, qui vont se rendre à la Ribère 12e. Donc là on espère que Mako fasse qu'il se sorte très vite de cette zone. Juste en dessous de la relégation
orange,
parce que sinon on sait que nos équipes girondines, en tout cas voilà, on espère qu'elles ne descendront pas. Après il y aura un match un peu plus déséquilibré, Nérac 4e qui va recevoir donc l'équipe de Morsinx qui est 10e, qui est premier relégable. Donc là aussi, si Mako en tout cas arrive à gagner et que Nérac arrive à gagner, ça va arranger tout le monde et puis comme ça ira très bien. Dans la poule B, il y aura un match, il y aura pas d'équipe d'Aquitaine, mais c'est Syros 9e contre le Pays du Drô qui est 10e. Donc là aussi ça va être un match à enjeu puisque c'est le premier relégable contre le premier non relégable. Dans la poule C, il y aura deux matchs très importants. La JAB de Pau de Jean-Michel Larquet, qui est avant-dernier du classement, 11e, jouera contre le 12e Pondora, qui arrive à gagner ses matchs sur la phase retour. Donc attention, c'est très très compliqué. 3 points d'écart entre les deux équipes. Et un match très important pour l'équipe réserve de l'Eche Cap Ferré, qui est en course à la lutte, à la montée. Avec 2 matchs en moins, ils reçoivent Moléon, qui est 6e. Et l'Eche Cap Ferré est donc 4e avec 38 points. Et peut se permettre de dire qu'ils vont jouer la montée.
Et ils vont avoir la chance d'avoir 3 arbitres officiels, un délégué.
Ouais, mais pour tout le monde ce week-end, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Donc voilà. On passe à la poule D. Puisque dans la poule C, il n'y a pas de. Si, je l'ai dit, la poule C. C'est dans l'autre poule de PH. Il n'y aura qu'un seul match dans la poule D. En tout cas, c'est Tonin ce dernier qui va recevoir Marcellus Cocumont qui est 5e. Qui, eux, en tout cas, vont essayer de jouer quelque chose, même si. Montron, qui est deuxième, a déjà quand même 10 points d'avance sur eux. Dans la poule E, deux matchs très importants, notamment un pour l'équipe de Gérard Busteau, qui va recevoir l'équipe d'Ambarès, qui d'ailleurs qui est ex-aequo avec nous en Dernos. Donc la Bastidienne, 11e avant-dernier, va recevoir l'équipe d'Ambarès, qui est 3e, et Caudreau, 9e, va recevoir l'équipe d'Andernos, mon équipe, donc qui est 3e aussi au classement. Donc match très important, victoire obligatoire en tout cas pour les deux équipes aux têtes, mais on sait quand les équipes en dessous, on va avoir besoin de points. Donc là, ça va être
et très pareil, très trois arbitres officiels, un délégué.
Bien sûr. Et puis dans la poule F, le Bourget, donc 8e, va recevoir l'équipe de Talence, qui est 2nd. Même si Talence arrivait à perdre ce match, ils récupéraient leur première place au classement. Ils ont qu'un point de retard sur cette équipe de Boulazac. Boulazac, seule équipe invaincue, en tout cas, toujours en Ligue Aquitaine, avec un bilan de 15 matchs, 9 victoires, 6 matchs nuls. Donc c'est quand même pas mal pour cette équipe de Boulazac. Hein.
Bon, ils sont aussi bons en basket qu'en football.
C'est vrai. Mais ils ont une particularité au niveau du foot, c'est qu'ils se servent de joueurs qui viennent de Trélissac. Et quand on connaît le réseau de Trélissac,
le vivier,
c'est quand même
là.
Pas mal. Ouais. Et puis ils ont un président qui leur trouve du boulot. Donc j'ai eu la chance de rencontrer cette équipe cette année. Et franchement, c'est une très belle équipe, voilà, c'est l'invaincu, c'était pas pour rien. On passe à la PH, il y aura deux matchs qui vont nous intéresser. Il y a Esman 6e qui va recevoir le RC Bordeaux, qui est 8e. On espère que le RC en tout cas fasse.
Ouais, besoin de prendre des points,
ouais, et puis cette fois ils feront pas l'aller-retour pour rien, puisqu'on sait que la dernière fois ils sont partis à Esman et qu'il y a un arrêté municipal de suite devant. Enfin, l'arbitre a préféré ne pas faire jouer cette rencontre, donc ils ont fait l'aller-retour pour rien. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, en tout cas pour protéger aussi les joueurs.
Hein. Par contre, il y a un arbitre qui a fait jouer un match et le terrain est mort.
Ah, d'accord. Et puis, troisième, c'est Louis de Béarn qui joue la montée, d'ailleurs, qui va recevoir le Stade Montrois 3, qui est 11e. Ça sent pas bon, en tout cas, pour l'équipe 3 de Mont-de-Marsan, hein, qui se dirige tout droit vers la PL. On passe à la poule B. L'Avenir Mourinxois, 5e, qui va jouer la montée, va recevoir l'équipe de Saint-Médard-en-Jalles 2. On espère qu'en tout cas Saint-Médard-en-Jalles fasse un bon coup. Ils vont en avoir besoin quand même, parce qu'ils sont qu'à 4 points du premier relégable. Et puis Saint-Pierre-du-Mont, 11e, qui est passé devant l'équipe d'Yvon Desmartons, du coup, ouais, et bien, va jouer contre Villeneuve 2. Et Villeneuve 2, et bien, on espère que Villeneuve 2 fasse un bon coup. Et il n'y aura pas de match à Villeneuve, tout simplement. Alors peut-être que ça sera la CFA, mais je pense que la CFA vont jouer samedi soir, puisque la B va à l'extérieur et la C ne joue pas. Voilà, c'est comme ça que je réponds à ta question de suite. On passe à la poule DHR poule A, puisqu'en poule CPH tous les matchs ont été joués, et il y a un match qui va faire peur un petit peu.
Oloron Vert.
Oloron, 12e du classement, dernier, va recevoir Ison Vert, qui est 11e. Ison Vert va un peu mieux depuis que Nicolas Sarrard a pris l'équipe. Il arrive à enchaîner les victoires, mais là c'est très important. Par contre, si Ison Vert arrive à gagner, il se replacerait 9e, il sortirait de cette zone de relégation. Donc là, on leur souhaite.
Tout le monde.
Et puis Oloron, pour les avoir rejoués cette année, franchement, c'est vraiment très faible. Mais là, c'est à Oloron, donc ça risque d'être très très compliqué.
Ah,
quand on
connaît
le terrain de rugby juste à côté, voilà, c'est une ambiance un peu assez sympa à Oloron Sainte-Marie. On passe à la poule B. Il y aura deux matchs que d'ailleurs Alexis va très vite regarder. Bon, à part en haut du classement, Orthez qui va jouer contre Biarritz, 3e contre 2nd. Donc là, c'est les équipes du haut de classement. Ben voilà, les équipes qui vont essayer de jouer la montée. Par contre, l'Aviron Bayonnais 2, 7e, va recevoir le dernier du classement. Et ben il faut que Bayonne gagne pour que directement.
Ça.
Voilà, donc et ben bizarrement
pour Bayonne gagnera.
Sera pour Bayonne, Alexis, ça va l'arranger, hein, puisque voilà, comme ça au moins le Bouscat est sûr de rester 9e au classement. On passe à la DH, trois matchs nous intéressent. C'est Sarlat, 11e, qui va recevoir cette équipe surprenante de Cestas, encore une fois 4e du classement. Ensuite, Bayonne Croisé, 14e, qui vient de prendre un bon point du match nul à Labrette.
Deux points.
Non, c'est un seul, puisque sinon ils ont une défaite, un point. Donc ça fait qu'ils reviennent avec deux points.
Oui, mais enfin, ils ont pris deux points.
Bah non, ils en ont pris qu'un. Voilà, ça suffit maintenant. Marmande, voilà, ils vont jouer contre Marmande.
C'est un contrat spécial. C'est spécial.
Et puis enfin, Anglette, 9e, qui va jouer contre Libourne, 6e. Libourne, eh ben, c'est l'équipe en tout cas qui peut encore jouer la première place. C'est la seule équipe du haut de classement qui
mais ils ont intérêt à vite
deux matchs
les points.
En moins. Mais les matchs en retard ne sont pas des matchs gagnés.
C'est pas gagné.
Et encore une fois, on en a la preuve chaque semaine en ce moment. On passe à la CFA 2. Là aussi, il y aura des matchs qui vont nous intéresser. C'est Anglette, 3e, qui va recevoir Angoulême, qui est 9e. Gros choc entre Bergerac.
Je te fais une parenthèse, 7e. C'est ouais. Peut-être ce qui va rendre service justement à Libourne, c'est que Anglette, la première, joue la veille.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais.
Et comme Anglette joue peut-être aussi la montée en CFA.
Ah, mais ils veulent jouer la montée en
donc
CFA. En tout cas, voilà. Bergerac. Choc Bergerac contre l'Eche Cap-Ferré. Donc les deux coachs qui s'adorent, entre notre ami Fabien Pujol et Alex Torres, qu'on adore aussi. Donc,
les deux potes.
Et bien voilà, que le meilleur gagne entre les deux équipes. Hein, et voilà. Donc on sait qu'au match aller, l'Eche avait gagné 2-1. Avec un super match. Ben, peut-être que Fabien, en tout cas, a envie de prendre sa revanche. Arcachon, 14e, qui a gagné son dernier match, en tout cas, va jouer contre le premier. Et ben moi, je dis que sur ce match-là, vous allez être étonné, mais je sens que Bayonne ne gagnera pas. Voilà, on en reparlera mercredi prochain. Et enfin, Villeneuve 12e va jouer contre Agde. Et ben là, on espère que Villeneuve prenne les points et qu'ils nous enfoncent cette équipe-là qui reste du côté de Montpellier. Voilà, c'est pas
chez nous.
Voilà, c'est pas chez nous. On s'en fout.
Je connais l'équipe d'Agde. Ensuite, je pense que c'est jouable. On passe
à la poule D donc de CFA. On le disait donc, ben il y a un match là qui se joue
tout à l'heure, 19h.
Trélissac contre Saint-Malo. Donc Trélissac face à cette équipe de Saint-Malo qui est 11e au classement. Par contre, pour la prochaine journée, il y aura un Nantes Girondins de Bordeaux. Donc c'est le 7e contre le 10e. Il y aura un Stade Bordelais 1er contre donc Tarbes 14e. Trélissac ben je rejouerai samedi face à Mont-de-Marsan qui est 9e et enfin Pau 8e va recevoir cette équipe de Fontenay-Vendée qui est 13e au classement et ben ça serait bien qu'ils y restent. Voilà. On va parler des coupes. Il y a eu des tirages de sort de Coupe d'Aquitaine. On a 5 minutes pour en faire. On va parler d'abord des féminines. Il y a donc Talence Alliance va recevoir cette équipe de Jurançon. Labène va jouer contre Bergerac-Périgord. Aisine jouera contre Trélissac. Et enfin Mérignac-Arlac jouera contre Porte-Entre-deux-Mers.
Tant que la benne ne bascule pas.
Ouais, merci. Ensuite, on passe au quart de finale donc des U18. Là aussi, en Coupe d'Aquitaine, il y aura un Stade Bordelais, Stade Montois. Donc, ça devrait être très très belle affiche. Un Mérignac-Arlac, Bayonne-Aviron. Un Bergerac jeune face au Pau FC. Et enfin, un Anglet-Lèche-Cap-Ferré. Désarmant, qui est la même affiche.
Que la
Coupe d'Aquitaine.
Que la Coupe d'Aquitaine, oui.
Mais avant de parler de la vraie Coupe d'Aquitaine, il y a la Coupe d'Aquitaine
entreprise.
Voilà, alors je suis tombé dessus, j'ai demandé à JC pourquoi le CHR n'était pas rentré. Il m'a dit non, mais nous on rentre qu'en quart. Maintenant, comme ça c'est fait, on va parler donc des autres équipes. Donc il y aura Gann qui va jouer contre Piché, c'est sûrement des équipes.
Oui,
voilà,
oui Piché qui est en division d'honneur. Hein.
Voilà, la SPTT jouera contre l'AFK, c'est ça?
Je connais pas.
Petite
équipe.
Bouygues Télécom jouera contre Banque Populaire, comme ça, et on va tout mettre en avant.
Alors Bouygues Télécom, c'est la première série, et la Banque Populaire BPSO, c'est division d'honneur.
Ensuite, il y aura la Sortie Facile. Qui est premier de sa poule, là, j'ai vu là aussi.
Une jolie équipe, hein.
Voilà. Ouais, très belle équipe, ouais.
Qui jouera contre les municipaux de Bordeaux. Bergonier Institut jouera contre
Sextant.
Merci. Les grands.
Les grands chais. Alors les grands chais,
c'est Landiras.
Landiras, oui.
Ben jouera contre Bassins Michelin.
Michelin, belle équipe. Hein.
Port autonome
en DH. Voilà,
Poudrerie.
Ah ben ça, c'est un duel de DH.
Voilà. Mais c'est un dead de bas de classement.
Ah, bas de classement.
Voilà, j'ai regardé tout à l'heure. Les Pages Jaunes jouera contre Safran.
Oui.
Dassault contre l'Opéra.
Oui.
Voilà. Là, ça sera donc le samedi 14 à 15h30. Voilà. Et enfin, le dernier match, en tout cas, c'est Cédiscount qui jouera contre l'équipe de Sabatier et Étienne. Voilà.
Oui, l'hôpital Sabatier de Libourne, Cédiscount, ça va faire un beau match, ça aussi.
Et enfin, on va finir en beauté avec 4 affiches donc, de Coupe d'Aquitaine. Là où on va finir tranquillement, puisqu'il nous reste 2 minutes pour donner donc ces 4 affiches où déjà, j'en parlais avec Fabio hier soir, un beau derby déjà entre Sarlat et Bergerac, DH contre CFA2, il m'a dit que ça va être dur d'aller jouer à Sarlat. Je lui ai dit on s'en doute, mais bon, le plus important c'est de passer.
Il connaît Fabio.
Mais on a choisi notre camp sur cette affiche. Il y aura Esmond Meillon qui fait un super parcours, en tout cas, qui a fait un beau parcours aussi en Coupe de France, qui va jouer contre Libourne. Ça sera donc à Esmond. Le Bec va recevoir Lormont. Le Bec, encore une fois, qui est en course,
qui est surprenant.
Qualifié en demi-finale de Coupe de Bordeaux, qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Aquitaine. Bravo à ce club fantastique. Et puis enfin, Lèche Cap Ferré va jouer contre Anglette. Et ben voilà, les deux groupes, entre les 18, le groupe de Laurent Marquezanne et donc le groupe d'Alex Torres, partiront ensemble le jour du match. Et voilà, on a fait le tour.
C'est fabuleux le football.
De toute cette actualité pour la 140e. Merci nos amis à la technique. Alexis, merci beaucoup.
Hassan.
Ils sont plusieurs, donc.
Oui, il a recruté. Il a commencé l'émission tout seul, et puis j'ai vu, il a fait du casting, et là, il a recruté.
Voilà, JC, merci
bien débrouillé.
La semaine prochaine, ça y est, c'est les quartiers à Maugé-Tolland qui reviennent.
Maugé-Tolland,
on pourra faire la route ensemble, c'est bien. Je suis content, moi qui ai mis sur le bassin. Et puis Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup à notre invité que tu
David. David Lalonde.
Merci, David.
Et bien, on va suivre l'opéra, en tout cas. On va suivre ça.
Avec plaisir.
On sait jamais.
Je ne chanterai pas pour autant.
Peut-être que je viendrai prendre une licence. Voilà. D'accord. Tranquillement.
Ah mais sans problème. Hein.
En tout cas voilà, merci beaucoup pour la 140e. Rendez-vous la semaine prochaine pour la 141e. En attendant, bonne fin de soirée à tous.
Merci.
Au revoir, bonne soirée à tous.
Bravo. We'll be right back.
écoutez Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne sur 91.3 FM.
La radio de la métropole bordelaise. Profitez de nos ondes pour diffuser.